quatre quatrième année pour le catéchisme, la troisième
pour ce qui est de l'Institut Saint-Grégoire-le-Grand. Nous avions fixé comme programme, il y a 3 ans, cette phrase de saint Augustin, « Que je me connaisse et que je vous connaisse. Que je me connaisse et que je vous connaisse, Seigneur. » C'était un petit peu la devise de saint Augustin. Saint Augustin résumait toute sa vie spirituelle sur cette phrase. Alors que je me connaisse, c'est d'abord que je connaisse le mal qui est en moi depuis le péché originel. C'est l'étude du péché originel et de ses conséquences. C'est ce que nous avons fait la première année. Ensuite, que je connaisse le bien qui est en moi par la grâce de Dieu et la charité. On l'avait fait donc l'année suivante. Et ensuite, l'année dernière, on avait commencé la deuxième partie. Que je vous connaisse. Que je vous connaisse, c'est donc l'étude de notre Seigneur Jésus-Christ. On avait commencé d'abord par voir la vie de notre Seigneur en Dieu, sa vie dans la vie trinitaire, la place qu'occupait notre Seigneur au sein de la Trinité. Et ensuite, on a étudié le mystère de son incarnation. Incarnation qui se prolongeait ensuite par la rédemption, c'est-à-dire par sa mort sur la croix et sa résurrection. Et enfin, on avait abordé, en dernière conférence, son retour glorieux à la fin des temps. Nous ne savons pas quand, mais nous savons qu'à la fin des temps, le Christ reviendra en gloire pour juger les vivants et les morts. Et il y aura quelques signes précurseurs dont on avait parlé la dernière fois qui permettront pour les contemporains de saisir les signes des temps, pour au moins ceux qui seront fidèles au bon Dieu. Et ensuite, alors, que je vous connaisse, c'est encore approfondir la vie de Dieu, mais non plus comme une personne extérieure à nous, mais comme vivant en nous. Plus, comme Paul le disait aux Corinthiens, ne reconnaissez-vous pas que le Christ Jésus est en vous? Ne reconnaissez-vous pas que le Christ Jésus est en vous? Alors, après avoir étudié la vie de notre Seigneur comme extérieure à nous, comme un modèle à suivre et à imiter, on va voir que notre Seigneur n'est non seulement le but à atteindre, mais également le moyen pour y parvenir. Il doit être le but. Saint Paul disait, pour moi vivre, c'est le Christ. La religion catholique, ce n'est pas une adhésion à une idéologie, à une doctrine. Ce n'est pas cela, c'est l'adhésion à une personne, la personne de notre Seigneur. Et il suffit de lire les écrits des premiers, des saints martyrs, en particulier des premiers siècles, pour s'apercevoir combien ils étaient subjugués par la personne de notre Seigneur. Les écrits de saint Irénée, ici à Lyon, saint Cyprien, saint Polycarpe, on les sentait vibrer à la pensée, en méditant sur cette personne de notre Seigneur. Mais si notre Seigneur est le but, il est également le moyen. Je suis la voie, la vérité et la vie. C'est notre Seigneur qui parle. Il est la voie, il est le chemin. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Saint Jean, chapitre 3, verset 36. Il nous faut donc, à l'exemple de saint Paul, tendre à ce que ce ne soit plus nous qui vivions, mais vraiment le Christ qui vive en nous. Saint Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ainsi, les conférences de cette année ont pour but de montrer de quelle manière notre Seigneur vit en nous et comment nous devons également le voir à travers notre prochain. Lorsque saint Paul fut terrassé de son cheval et qu'il allait arrêter des chrétiens avant sa conversion, notre Seigneur lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi me persécutes-tu ? » Et pourtant, ce n'était pas notre Seigneur lui-même qui était persécuté, puisque c'était des chrétiens. Mais notre Seigneur s'identifiait à ceux qui souffraient par amour de lui. Ainsi, on peut dire que notre Seigneur continue sa passion à travers les chrétiens qui acceptent de porter leur croix à sa suite. Il a dit encore par ailleurs, ce que l'on fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi qu'on le fait. Et si donc notre Seigneur nous apparaissait aujourd'hui pour nous demander un service, eh bien à ce moment-là, je suis sûr qu'on s'empresserait d'exécuter ce service avec plaisir. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne que nous pouvons connaître et qui nous demande ce service, eh bien on a du mal à voir notre Seigneur à travers elle, parce qu'on voit trop les choses d'une façon trop humaine. On manque de foi. Alors ces conférences ont pour but, je l'espère au moins, d'alimenter notre foi, pour voir les choses et les événements non pas tels qu'ils nous apparaissent extérieurement, mais pour essayer de les voir avec les lunettes du bon Dieu. Comment le bon Dieu voit les choses ? Alors, puisque nous devons parler, comme je l'ai dit, de la vie de notre Seigneur en nous, il nous faut en premier lieu parler de l'Église, parce que c'est elle qui nous a engendrés à la vie divine et qui permet le développement de la vie de notre Seigneur en nous. Et ensuite, vous avez vu les thèmes des conférences qui suivent. Enfin, il y a toute une suite logique. Après avoir vu le mystère de l'Église, on essaiera de voir de quelle manière nous participons à la consécration de notre Seigneur. Et cela par le baptême. Nous avons eu une marque, un sceau qui était imprimé à notre âme et qui nous distingue à tout jamais des autres créatures. Ensuite, on verra comment on doit participer également à sa royauté et aussi à ses souffrances, à son sacrifice. Et ensuite, on essaiera de faire un petit survol des trois âges de la vie intérieure. Vous le savez, les pères de l'Église ont toujours résumé la vie spirituelle, d'une façon générale, ici-bas, en trois âges, trois périodes. Une période plutôt ascétique. Ensuite, les deux autres périodes sont des périodes qu'on appelle aussi mystiques. La première, c'est une... On se laisse illuminer par Dieu, donc c'est la période qu'on appelle illuminative. Et ensuite, c'est l'union plus parfaite avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la période unitive. Donc, trois âges de vie spirituelle. Et enfin, à une époque où l'on constate que beaucoup de catholiques se laissent entraîner par le mouvement charismatique, ou encore plus généralement, ont perdu la notion de la foi, pour beaucoup de gens, si on leur interroge, on leur demande... Pour vous, qu'est-ce que c'est que la foi ? Eh bien, ils vont dire, c'est un sentiment de l'existence de Dieu. Mais ce n'est pas vraiment une adhésion de notre intelligence à la vérité révélée par Dieu. Il y a donc une fausse conception de la foi. Aux petits-enfants, d'ailleurs aux adultes aussi, quand on récite notre acte de foi, on dit, « Mon Dieu, je crois fermement en toutes les vérités que vous nous avez enseignées et que vous nous révélez par votre Église. » La foi, ce n'est donc pas avant tout un sentiment. La foi, c'est l'adhésion de notre intelligence à la vérité révélée par Dieu. Si Dieu vient sur la terre pour me dire qui il est, eh bien, et s'il me montre par des signes tangibles qu'il est Dieu, en ce moment-là, je dois me soumettre à sa parole. Même si je ne le sens pas. Je n'ai pas senti l'enfer. Si le bon Dieu me dit que l'enfer existe, eh bien, je dois le croire. Parce que lui sait mieux que moi ce qui se passe dans l'au-delà. Donc la foi, c'est vraiment une adhésion de notre intelligence à la vérité révélée par Dieu. Dieu nous parle de l'au-delà pour nous dire ce qui se passe. Il est mieux au courant que nous. Donc s'il nous parle, on doit le croire. Et surtout si ce qu'il nous dit est appuyé par des miracles. Par des miracles en particulier, celui de la résurrection de notre Seigneur. Qui est la plus grande preuve de... la divinité de notre Seigneur. C'est pour ça que Saint Paul disait d'ailleurs, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et au contraire, comme il est ressuscité, eh bien notre foi a bien un but. Alors voyons, pour commencer, le mystère de l'Église. De quoi s'agit-il ? Eh bien, dans la crise de l'Église que nous traversons aujourd'hui, il est très important d'essayer d'avoir une juste notion de ce mystère de l'Église. D'abord pour nous-mêmes, afin de rester fidèles aux promesses de notre baptême, et ensuite par rapport aux autres, pour pouvoir répondre aux sophismes qu'on entend trop souvent. Par exemple, on entend parfois dire, Puisque l'Église est sainte, c'est ce qu'on dit dans le credo, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique, donc l'Église est sainte, eh bien le pape ne peut pas se tromper. Donc si on lui obéit, si on lui désobéit, eh bien en ce moment-là, on se met en dehors de l'Église. Quel que soit ce qu'il nous commande, on doit le suivre. D'autres pourront nous dire également, moi je ne crois plus à l'Église, puisque je constate que plusieurs membres de sa hiérarchie font le contraire de ce qu'ils prêchent. Si l'Église est sainte, pourquoi y a-t-il tant d'infidélité dans l'Église? Pourquoi y a-t-il tant de prêtres, et peut-être même hélas d'évêques, qui ne prêchent plus l'Évangile comme elle doit être prêchée? D'autres pourront nous dire encore, si l'Église est une, et l'Église est une, puisque nous disons dans le credo, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je crois en l'Église une. Donc on croit bien en cette unité de l'Église. Alors certains vont nous dire, si l'Église est une, pourquoi y a-t-il tant de divisions? D'autres nous diront encore, quand ils savent qu'on est traditionnaliste, mais vous êtes figés dans le passé, il faut quand même évoluer. On est au XXe siècle. Et on pourrait multiplier ainsi les objections qui sont avancées par nos contemporains et qui parfois peuvent nous troubler, peuvent nous dérouter, parce que justement nous méconnaissons ce mystère de l'Église. Alors essayons d'approfondir ce mystère afin d'affermir notre foi et également afin de rester fidèles à une époque comme la nôtre, que nous n'avons pas choisie et qui est une époque troublée. Voyons tout d'abord l'Église dans la pensée de Dieu. L'Église ne peut pas se concevoir sans notre Seigneur Jésus-Christ, ni notre Seigneur Jésus-Christ sans son Église. Saint Paul définit l'Église comme le corps de notre Seigneur. Et vous le savez, on ne peut pas séparer la tête du corps, sinon on meurt. Et bien de même, on ne peut pas séparer notre Seigneur Jésus-Christ de son corps. On ne peut pas séparer notre Seigneur Jésus-Christ de son Église. C'est dire que de toute éternité, Dieu le Père voit le Fils, et à travers lui, il le voit comme étant le chef d'un immense corps, à savoir le chef de son Église. Et le pasteur Dermas, que vous connaissez peut-être, au IIe siècle, y représentait l'Église sous la forme d'une femme âgée. Et il en donnait la raison. Elle a été fondée avant toute chose, et c'est pour elle que le monde a été créé. Et pourtant, c'était au IIe siècle. Saint Paul dira également que tout ce qui existe, existe pour les élus. Omnia propter electos. Tout ce qui existe, existe pour les membres de l'Église. Si donc on supprime l'Église, le monde entier, l'univers, perd sa raison d'être. Si l'univers tourne encore, si on n'est pas encore à la fin des temps, eh bien c'est parce qu'il y a encore sur la terre des gens qui sont fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore des membres de l'Église vivante qui vivent de la grâce de Dieu. Et la preuve qu'on pourrait donner, c'est la comparaison de Sodome et Gomorre. Vous connaissez tous cette histoire de l'Ancien Testament, des trois anges qui apparaissent sous forme humaine à Abraham et qui viennent lui dire qu'ils vont détruire, sur l'ordre de Dieu, la ville de Sodome. Et alors, en ce moment-là, plein de miséricorde, Abraham essaie de se faire l'avocat des habitants de Sodome. Il dit, mais s'il y avait 100 justes dans la ville, est-ce que vous détruiriez la ville? Et alors ils disent, eh bien non, s'il y avait 100 justes, on ne la détruirait pas. Mais s'il y en avait 90, est-ce que vous la détruiriez? Et il descend comme ça petit à petit jusqu'à 10. Et il dit, et s'il y avait 10 justes dans Sodome et Gomorre, est-ce que vous détruiriez la ville? Et la réponse est, non, s'il y avait 10 justes, je ne la détruirais pas. Et il s'arrête là. Et la ville va être détruite parce qu'il n'y avait que 4 justes, 4 personnes à être fidèles à Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la loi du nombre. On se dit, on est dans le nombre, on suit le troupeau, et donc on est dans la vérité. Eh bien non. Dans la ville de Sodome, il n'y avait que 4 personnes à respecter les commandements de Dieu. Lot, sa femme et ses deux filles. Lot qui était le neveu d'Abraham, ainsi que sa femme et ses deux filles. Et en ce moment-là, ils reçoivent l'ordre de l'ange de quitter la ville. Et en ce moment-là, ensuite, la ville prend feu. si bien que les quatre justes ont pu être sauvés. Il y a juste eu la femme de Lot qui ensuite s'est retournée, alors qu'on lui avait dit de ne pas se retourner, et elle a été transformée en statue de sel. Avec la curiosité, parfois ça se termine mal. Non, c'est une plaisanterie. Donc il n'y avait pas 10 justes. Mais alors ça c'est très important, parce que c'est pareil pour aujourd'hui. S'il n'y avait pas un nombre suffisant d'hommes à respecter la loi de Dieu, le monde perdrait sa raison d'être. Donc si le monde existe encore, si l'univers existe encore, c'est à cause des élus, à cause des âmes qui respectent la loi de Dieu. On peut dire que ceux qui respectent la loi de Dieu sont les paratonnerres de la colère de Dieu. Le bon Dieu, on l'a vu à la Salette, certains d'entre vous étaient à la Salette hier, la Sainte Vierge à la Salette a dit que le bras de son fils, le bras de la justice de Dieu, déjà en 1846, était si lourd et si pesant qu'elle avait du mal à le retenir. Donc la Sainte Vierge apparaît comme représentant la miséricorde et elle a du mal à freiner la justice de Dieu. Eh bien, si ce n'est pas encore la fin du monde, eh bien c'est à cause des élus. Alors c'est à nous de vivre de la vie de Dieu pour retarder justement cette fin des temps. Et plus nous serons fidèles au bon Dieu, plus nous serons apôtres, et plus, eh bien, le monde gardera sa raison d'être. Donc la première vérité, en tout cas, c'est que l'Église existe de toute éternité. Dieu ne peut pas voir son Fils sans considérer les membres qui forment son Église. Et c'est pourquoi il va décider son incarnation sur la terre. Si notre Seigneur meurt, c'est pour son Église. C'est d'ailleurs dit très bien, exprimé très bien dans l'épître de la messe de mariage. Déjà dans l'Ancien Testament, on voit que les prophéties qui concernent notre Seigneur s'appliquent également à l'Église. Bien plus, chez les prophètes, l'Église prend expressément la qualité d'épouse. Dans l'Ancien Testament, ils avaient toujours un langage très imagé et très concret. Alors pour indiquer cette union qui existe entre Dieu et son Église, les prophètes de l'Ancien Testament prenaient l'image de l'épouse. Par exemple, dans la prophétie d'Osée, « Je t'épouserai dans la justice et le jugement, dans la grâce et la tendresse. » Et encore, prophète Isaïe, « Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu, car ton époux, c'est ton créateur. » Également, on parlera, par rapport à l'union des âmes avec Dieu, on parlera d'alliance, pour bien indiquer de nouveau cette union intime. À l'alliance de Dieu tout d'abord avec Noé, ensuite avec Abraham, avec Moïse, avec David, avec les prophètes. Et comme tout ce qui existe dans l'Ancien Testament est figure du Nouveau, l'Ancienne Alliance est l'annonce de la Nouvelle Alliance, eh bien cela indique bien cette union intime qui doit exister ensuite dans l'Église, entre l'Église et notre Seigneur. Et cette Église qui était dans la pensée de Dieu de toute éternité, qui était figurée dans l'Ancien Testament, cette Église va naître du côté percé de notre Seigneur. Lorsque le centurion Longin va avec sa lance ouvrir le cœur de notre Seigneur, Saint Jean dit qu'il sortit du sang et de l'eau. Et alors, d'après les pères de l'Église, ce sang et cette eau étaient la figure de l'Église. Pourquoi cela ? L'eau, ça figurait l'eau du baptême. C'est l'eau du baptême qui nous lave du péché originel. Et le sang, parce que le sang est à la fois le symbole de l'Eucharistie, le prêtre se nourrit du précieux sang, et également parce que le sang est également l'expression du sacrement de pénitence. Sainte Catherine de Sienne, chaque fois qu'elle se confessait, elle disait « Je vais au sang de Jésus » pour montrer que c'était ce sang de notre Seigneur qui nous lave, qui nous purifie chaque fois que nous confessons humblement nos fautes. Deuxième conclusion, l'Église qui existe depuis toujours dans la pensée de Dieu a été annoncée et figurée dans l'Ancien Testament et a pris naissance à la mort de notre Seigneur. Lorsque le centurion a ouvert le côté de notre Seigneur et qu'il en sortit du sang et de l'eau. Alors maintenant, nouvel aspect, conséquence de cette union, le Christ dans l'Église et l'Église dans le Christ. Cette union est si intime, on peut parler d'une présence du Christ dans l'Église et d'une présence de l'Église dans le Christ. Tout le mystère de l'Église réside dans l'équation et la convertibilité de ces deux termes, le Christ et l'Église. Par exemple, lorsque l'on dit hors de l'Église, point de salut, on peut très bien dire également hors du Christ, point de salut. C'est la même chose. Et vous le savez, il y a quatre signes auxquels on reconnaît la véritable Église. C'est ce qu'on appelle les notes de l'Église. Je l'ai rappelé tout à l'heure, l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. L'Église est une tout d'abord. Pourquoi ? Parce que la vérité qu'est notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'Église et l'Église dans la vérité. Le fondement de l'unité, c'est la vérité. Ceci est très important. Parce que c'est justement le contraire de la vérité, c'est l'erreur, et c'est justement l'erreur qui est source de division. On le dit très bien dans le cantique que vous connaissez, par le commande règne, on demande au bon Dieu de bannir l'erreur qui nous divise. C'est l'erreur qui nous divise. La vérité unit. La vérité est source d'union. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Donc l'Église est une parce que la vérité que notre Seigneur est dans l'Église et l'Église dans la vérité. Hors de la vérité, il ne peut pas y avoir d'unité. Et c'est pour cela que tout le faux écuménisme repose sur une ambiguïté. Parce que on recherche une unité dans l'erreur avec des gens qui ne partagent pas la même foi que nous. On dit, c'est trop triste les divisions, il faut être unis. Alors on fait des réunions où l'on prie ensemble. Mais en réalité, ces gens-là sont dans l'erreur. Ou bien le catholicisme est la vraie religion, ou le protestantisme. Comme ils ne disent pas, comme ce sont deux religions qui s'opposent, parce que l'une croit à la présence réelle, par exemple, et l'autre n'y croit pas, il y a une contradiction. Donc, on peut dire que la division vient de ceux qui ne refusent de croire en la présence réelle. Ou le Christ est présent dans l'hostie, ou il n'est pas. S'il est présent, les catholiques sont dans la vérité, s'il ne l'est pas, ce sont les protestants. On ne peut pas être à la fois admettre que le Christ soit présent dans l'hostie et qu'il n'y soit pas. Sinon, c'est la négation du principe de non-contradiction. Alors cela est très important parce que dans notre mentalité, on recherche très souvent, on se dit, bien oui, c'est idiot, c'est division, il faut rechercher l'unité. Et cette unité, on oublie qu'elle ne peut avoir lieu que dans la vérité. C'est l'erreur qui divise. Donc, unité de l'Église. Ensuite, sainteté de l'Église. L'Église est sainte parce qu'elle a pour chef notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la sainteté même. Catholicité de l'Église, et parce que ses membres aussi, au moins une grande partie de ses membres, vivent saintement. Au moins ceux qui respectent la doctrine et la morale chrétienne. Ensuite, catholicité de l'Église. On peut dire que l'Église est catholique parce que la rédemption, le salut des âmes se fait par l'Église, hors de l'Église, point de salut, et que l'Église se fait par l'universelle rédemption. Dans la mesure où les âmes se sauvent, l'Église se remplit. Et si l'Église se remplit, eh bien c'est parce que les âmes se sauvent. Il y a une réciprocité. Apostolicité de l'Église ensuite, l'Église est apostolique, je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Pourquoi ? Parce que le Christ est dans les apôtres et également les apôtres dans le Christ. Les apôtres vivant de la vie de notre Seigneur, on peut dire que notre Seigneur vit en eux et eux sont en notre Seigneur. Alors maintenant, on peut donner la définition de l'Église. Bossuet s'interrogeait, qu'est-ce que l'Église ? C'est l'assemblée des enfants de Dieu, c'est l'armée du Dieu vivant. C'est son royaume, c'est sa cité, c'est son temple, c'est son trône, c'est son sanctuaire, c'est son tabernacle. Disons quelque chose de plus profond, c'est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ répandu et communiqué. Définition de l'Église par Bossuet, l'Église c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Alors sur les quatre notes de l'Église, on peut constater que c'est la quatrième qui a prévalu. On ne dit pas qu'on fait partie de l'Église une sainte catholique apostolique. On peut le dire de temps en temps, mais en général, on dit tout simplement on est catholique. Donc le terme de catholique résume en quelque sorte les quatre notes de l'Église. Pourquoi ? Parce que la catholicité, c'est l'unité dans l'espace. Catholique veut dire universel. C'est la même religion qu'on retrouve aux quatre coins du monde. Or, l'unité appelle une certaine hiérarchie et une tradition apostolique. Cette unité est fondée sur l'enseignement de notre Seigneur et des apôtres, donc un enseignement apostolique. C'est pour ça que l'Église est apostolique. C'est l'unité dans le temps. Et l'unité appelle aussi la sainteté, qui n'est autre que l'unité morale avec la doctrine. Donc le terme de catholique résume bien les quatre notes de l'Église. Mais, et cela est très important, si comme nous l'avons dit, l'Église est divine, comme notre Seigneur est Dieu, l'Église aussi est humaine, de la même manière que notre Seigneur est homme. Si notre Seigneur est vrai Dieu et vrai homme, l'Église doit être véritablement divine et véritablement humaine. Alors quand on parle des quatre notes de l'Église, on parle du caractère divin de l'Église. Mais ensuite, il ne faut pas oublier le second aspect. L'Église est aussi humaine. Alors comment l'Église est humaine? De quelle manière? Eh bien tout simplement, tout d'abord, parce qu'elle est composée d'êtres humains. On n'est pas des anges. Donc l'Église est humaine parce que les personnes qui font partie de l'Église sont des hommes. Mais plus que cela, si l'Église en elle-même est sainte et immaculée, elle est composée d'hommes qui, eux, sont pécheurs, sont des êtres faillibles. Notre Seigneur Jésus-Christ, en respectant le libre arbitre de chacun, c'est beau que même certains vont à Lourdes en dimanche, j'espère que ce sera avec eux, mais j'en sais rien. La Sainte Vierge à Lourdes demande à Sainte Bernadette, auriez-vous la bonté de bien vouloir venir ici 9 fois de suite? Donc on voit la Sainte Vierge, elle ne l'a pas imposé, elle a dit, je pense que Sainte Bernadette a bien sûr accepté tout de suite, mais on voit le respect, donc la Sainte Vierge, comment elle respecte le libre arbitre des êtres humains. Elle ne lui dit pas, viens ici 9 fois de suite, auriez-vous la bonté de bien vouloir? Donc le bon Dieu respecte le libre arbitre de chacun. Pour notre gloire ou pour notre perte. Alors, cela, si le bon Dieu respecte notre libre arbitre, eh bien il permet que des hommes, d'église même, fassent des erreurs et entraînent d'autres personnes dans le mal. Parce que comme le dit notre Seigneur, lorsque un aveugle conduit un autre aveugle, ils tombent tous les deux dans la fosse. Cependant, là, il y a quand même un équilibre qu'il va falloir trouver. C'est vrai que tous les hommes d'Église n'ont pas le charisme de l'infaillibilité, de l'indéfectibilité, mais par ailleurs, notre Seigneur a bien dit « Tuez Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Donc l'Église doit durer jusqu'à la fin des temps. Alors il y a des cas pour qu'il puisse y avoir ainsi, pour que l'Église puisse durer, il y a des cas où le bon Dieu protège le souverain pontife et l'empêche d'errer. Et c'est le dogme de l'infaillibilité pontificale qui a été établi au siècle dernier par le Concile Vatican I en 1870. Le pape est infaillible lorsqu'il parle ex cathedra. Alors les conditions de l'ex cathedra, il faudrait encore développer. Et donc, selon des conditions particulières, le pape est infaillible. Mais alors, en dehors de ces conditions, le pape lui-même peut se tromper. Et alors là, je vous inviterai, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ce numéro de Sissi Nono du mois de décembre 90, Tuès Petrus, qui fait un rappel un petit peu de cette doctrine de l'Église concernant le souverain pontife, et qui parle des différents papes au cours des siècles qui ont pu errer. Non seulement dans la discipline générale de l'Église, mais même dans la foi. Mais alors, le sous-titre est « Quand sur Pierre prévaut Simon ». C'est-à-dire que le pape, en tant que pape, ne peut pas se tromper, mais en tant qu'homme, il peut se tromper. Et il y a des cas bien définis dans lesquels il parle en tant que pape. Et donc on sait très bien quand est-ce qu'il engage son infaillibilité et quand est-ce qu'il ne l'engage pas. Et cela est très important, bien sûr, pour discerner. Alors quand sur Pierre prévaut Simon, il est clair alors qu'au cas où, en dehors de l'ex-cathédrale, le pape manque de prudence, au cas où malheureusement prévaudraient dans l'Église des nouveautés favorisées par le haut, mais contrastant plus ou moins à découvert avec ce que l'Église a toujours cru et enseigné, le catholique doit s'en tenir aux enseignements des conciles dogmatiques, à ce que les pontifes romains ont enseigné, soit individuellement ex-cathédra, soit en continuité harmonieuse avec leurs prédécesseurs. Et au cas où tout ceci manquerait, le catholique doit en rester, comme l'enseigne saint Vincent de Lérins, à l'antique foi de l'Église universelle, en s'écartant des nouveautés suspectes. C'est ce que de nombreux fidèles, sans faire tant de raisonnements théologiques, mais uniquement guidés par l'instinct surnaturel de la foi, font aujourd'hui, s'arrêtant, comme vous, à Pie XII. Et cette instinctive mesure de prudence n'entend pas du tout nier la possibilité pour l'Église de progresser ultérieurement dans la compréhension de la vérité révélée. Elle nie simplement que cette compréhension puisse aller, comme elle le prétend aujourd'hui, jusqu'à répudier ce qui pendant 2000 ans a été cru et enseigné. Si à une époque l'Église enseigne le contraire de ce qu'elle enseignait la veille, eh bien la prudence nous invite à suspendre notre jugement et à nous en tenir à ce qui a toujours été enseigné. C'est le bon sens qui le dit. Même lorsque c'est la tête de l'Église qui erre sur ce point. Donc, pour pouvoir répondre aux objections courantes que l'on entend aujourd'hui concernant l'Église, il nous faut nous rappeler que l'Église est divine et humaine. Divine et donc infaillible dans la transmission du dépôt révélé. L'Église a pour mission de transmettre fidèlement ce qu'elle a reçu des apôtres. Tradidi quod ad accepi, comme disait saint Paul, j'ai transmis ce que j'ai reçu. Et si évolution il y a, celle-ci ne peut être qu'une évolution homogène, c'est-à-dire le passage de l'implicite à l'explicite. Par exemple, en 1854, il y a eu la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, dans l'ensemble, a toujours été crue dans l'Église. Bon, il y a eu des exceptions. Mais dans l'ensemble, c'est ce qui a toujours été cru. Mais ça ne l'avait pas été d'une façon officielle. Alors, auparavant, ceux qui ne croyaient pas à l'Immaculée Conception n'étaient pas pour autant en dehors de l'Église. Mais depuis que ça a été défini, alors en ce moment-là, le pape ayant engagé son infaillibilité en prononçant l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, celui qui aujourd'hui refuserait d'y croire se met ipso facto en dehors de l'Église. Et c'est très souvent au contact de l'hérésie que l'Église s'est vue dans l'obligation de définir, de préciser un point du dogme qui avait toujours été cru, au moins par la majorité des pères de l'Église. Et c'est d'ailleurs en ce sens que saint Paul allait jusqu'à dire « il faut qu'il y ait des hérésies ». Non pas en soi, mais pour que la doctrine catholique puisse briller d'un nouvel éclat. Mais autre chose est cette évolution homogène du dogme, donc des dogmes qui ont été définis au cours des siècles et que nous admettons volontiers. Autre chose est d'intégrer dans l'Église des vérités ou des doctrines étrangères, qui sont étrangères au dépôt de la révélation. Par exemple, si l'enfer existait il y a 100 ans, il existe toujours. Il n'y a pas eu de raison, c'est pas parce qu'il y a eu un concile Vatican II, enfin, le concile n'a pas nié l'enfer, mais on constate que beaucoup de prêtres aujourd'hui n'y croient plus. En tout cas, s'il existait il y a 100 ans, il existe toujours. Si le péché originel existait il y a 100 ans, c'est ce qu'on enseigne dans les catéchismes, il existe toujours. Ce n'est pas parce que l'homme moderne est réticent et ne comprend pas très bien l'existence du paradis terrestre, et comment s'est passée ensuite la chute et la rédemption, que le péché originel tout d'un coup n'existe plus. S'il y a 100 ans l'Église était le seul moyen de salut, parce que hors de l'Église point de salut, c'est ce que disait saint Prien déjà dans le 3e et 4e siècle, et c'est ce que l'Église a toujours enseigné, eh bien c'est vrai toujours. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on veut être ouvert aux bouddhistes, aux musulmans et aux juifs, etc., que maintenant on peut se sauver dans n'importe quelle religion. Ou alors, en ce moment-là, on peut plus croire qu'elle peut se sauver d'un apostolique. Puisque si aujourd'hui elle enseigne le contraire de ce qu'elle enseignait hier, eh bien, en ce moment-là, demain, elle enseignera peut-être le contraire de ce qu'elle enseigne aujourd'hui. Eh bien, cette Église-là, on ne peut pas s'y fier. Si l'homme change, eh bien, Dieu ne change pas. Alors, on admet volontiers que le message évangélique soit adapté aux hommes, dans le sens où on peut expliquer les choses différemment, mais on ne peut pas changer le dépôt de la foi. Si moi-même, va dire saint Paul, ou un ange du ciel venait prêcher un autre évangile que celui que je vous ai enseigné, ne le croyez pas. Alors c'est ce que nous faisons, nous enseignons ce qui a toujours été enseigné. Ainsi, pour ne pas nous égarer par une fausse doctrine, il faut nous appuyer sur l'enseignement constant de l'Église. Il nous faut nous attacher à l'enseignement, c'est-à-dire à l'enseignement du pape lorsqu'il se fait l'écho de la tradition, mais lorsque, par malheur, il s'en écarte, lorsque Simon prévaut sur Pierre, alors notre devoir est d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme le disait saint Paul. Il y a des cas où mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous-mêmes, nous en souffrons, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont, et non pas comme on voudrait qu'elles soient. De même, la vie de nombreux clercs, de nombreux évêques, ne doit pas porter pour autant ombrage, ne doit pas porter atteinte à notre foi. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais catholiques que le catholicisme est mauvais. Ce que nous devons voir, c'est la doctrine et la morale qui est enseignée, qui est prêchée par notre religion. Et il faut voir également les fruits de sainteté chez ceux qui sont fidèles. Il ne faut pas regarder ceux qui sont infidèles à notre religion, comment ils vivent. Il faut regarder ceux qui sont fidèles. Les fruits qui sont portés par ceux qui mettent en pratique les commandements de Dieu et de son Église. Donc, troisième conclusion, l'Église est divine et humaine. Elle est divine par son institution, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est divine par son enseignement, sa doctrine est infaillible, une morale sans faille, mais elle est humaine parce qu'elle est composée d'hommes et d'hommes pécheurs. Alors si l'on oublie un de ces deux aspects, en ce moment-là, on défigure l'Église. Autre caractère de l'Église, l'Église est également communautaire. Notre religion n'est pas une religion individualiste, mais une religion à caractère social. C'est certainement un aspect qui est peut-être trop mis en valeur à l'heure actuelle, mais c'est un aspect qui existe. Alors il ne faut pas abandonner un excès par un autre. Notre Seigneur, dans les paraboles, compare toujours l'Église à une bergerie, à un festin nuptial, à un royaume, à un organisme vivant, pour nous faire comprendre les liens qui doivent exister entre les fidèles et également entre les fidèles et le pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront pas éternellement et personne ne les arrachera de ma main. Ce que le Père m'a donné est plus grand que tout. Nul ne peut l'arracher de la main de mon Père. On voit cette intimité de notre Seigneur avec les fidèles. D'où la protection que notre Seigneur donne à ceux qui lui sont fidèles. Confiance, petit troupeau, car il a plu à Dieu de vous donner le royaume. Le bon Dieu compare l'Église à un petit troupeau. Aujourd'hui, on voudrait, c'est toujours la tentation des prêtres, on veut avoir touché le plus d'âmes possible. Alors on veut faire la pêche au filet, mais si c'est la pêche à la ligne qui marche le mieux, eh bien, il faut faire la pêche à la ligne. Il y a la masse qu'on veut évangéliser. Ça a été la raison des prêtres ouvriers. En soi, c'était pas mauvais de vouloir évangéliser les ouvriers. Mais hélas, en se fondant dans la masse, eh bien, les prêtres ont perdu le sens de leur vocation. Ils se sont perdus. En voulant toucher tout le monde, eh bien, ils se sont laissés contaminer, si on peut dire. Et ils ont perdu le sens de Dieu. Confiance, petit troupeau. Et pour manifester ce caractère communautaire de l'Église, il est aussi important dans les familles de prier en commun. La prière individuelle est importante, la prière commune également. Ce n'est pas un hasard si notre Seigneur a pu dire « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Au lieu que chacun prie de son côté dans sa chambre. Il a bien dit aussi à un autre moment « Si tu veux te mettre en prière, va enferme-toi dans la chambre et prie. » Mais les deux sont nécessaires. Il y a des moments où on a besoin d'être seul à seul avec Dieu. Mais il y a aussi, et c'est normal, des moments où on doit essayer de prier en famille, et a fortiori à la messe, c'est sûr, et puis si possible ensemble. C'est bien de prier, de répondre aux prières du prêtre, mais c'est mieux quand c'est ensemble. Sinon ça fait des échos après. Autre conséquence de cet aspect communautaire, l'homme ne se sauve pas seul, et l'homme ne se damne pas seul. Donc on doit rechercher bien sûr notre sanctification en premier lieu, mais non seulement pour nous-mêmes, mais également pour notre entourage, pour notre famille, pour nos amis. C'est d'ailleurs une grave responsabilité de penser que si l'on était plus saint, eh bien on rayonnerait davantage, il y aurait plus d'âmes qui se sauveraient. Il faudrait y penser plus souvent. Donc importance de la prière en commun, importance aussi des contacts entre les fidèles, qu'on essaie de tisser comme on peut, mais pour cela importance de la pratique de la charité. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Enfin, dernière marque à laquelle on reconnaît les vrais disciples de notre Seigneur, parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai tiré du monde, le monde vous hait. C'est notre Seigneur qui le dit. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Donc si notre Seigneur nous a donné en partage sa sainteté, sa mission, il nous a aussi laissé en partage la haine du monde, le partage de la haine du monde, de la croix. Donc on ne doit pas s'étonner des attaques que l'on peut subir. Il ne faut pas pour autant jouer aux persécutés, mais de fait, nous pouvons constater que si nous cherchons à être fidèles à notre Seigneur, eh bien, on suscite la haine autour de soi. Un mot maintenant de la doctrine de l'Église. Sur quoi repose la doctrine de l'Église? Bien sûr, c'est un sujet qui est très vaste, le mystère de l'Église. Alors, j'essaie de résumer en une heure et quart, une bonne heure, disons, ce mystère, mais il faudrait plusieurs heures pour en parler. Mais je préfère faire un survol pour vous montrer un petit peu différents aspects de ce mystère. Sur quoi repose la doctrine de l'Église, l'enseignement de l'Église? Sur quoi l'Église s'appuie-t-elle pour définir l'objet de sa foi? La plupart d'entre vous, si je leur posais la question, je ne vais pas m'amuser à faire des interrogations. Eh bien, je pense, me dirais, la référence par excellence de du catholique, c'est la Bible. La référence, quand on veut savoir sur quoi se fonde l'Église catholique pour définir ce qu'elle a à définir, bien, c'est sur la Bible. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est vrai en partie, mais pas entièrement. Et c'est justement ce qui nous sépare des protestants. Donc, tous les protestants vous diront, eh bien, notre référence, c'est l'Évangile, c'est la Bible. Les témoins de Jéhovah, d'ailleurs, diront la même chose. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes traductions, mais ça, c'est un autre problème. Mais, donc, les protestants, pour eux, la référence, c'est la Bible. Mais pour nous, ce n'est pas uniquement la Bible. Au-delà de la Sainte Écriture, il y a aussi la tradition. Et ça, c'est très important. La Bible, c'est l'enseignement écrit de la révélation. Mais au-delà de cet enseignement écrit, il y a aussi un enseignement oral. C'est bien écrit à la fin de l'Évangile, je ne me rappelle plus quel évangéliste, que notre Seigneur, avant de monter au ciel, leur parler des apôtres, parler aux apôtres du royaume de Dieu. Et en ce moment-là, il a sans doute expliqué comment devrait fonctionner ensuite l'Église. Donc il a posé les fondements de l'Église. Et tout cela n'a pas été écrit. Il y a un autre évangéliste qui dit, s'il fallait écrire tout ce que notre Seigneur a dit, eh bien le monde entier ne suffirait pas pour développer tout ce que notre Seigneur a pu développer. Ainsi, les écrits ont été développés, mais ensuite il y a eu tout un enseignement oral. Et ça, à l'époque, c'était très courant. Aujourd'hui, on écrit tout. Si on veut avoir une référence, c'est l'écriture. Mais il ne faut pas oublier que dans la mentalité, eh bien, l'enseignement se faisait surtout par oral. Et pendant tous les siècles de persécution, pour éviter de se faire reconnaître, c'était essentiellement l'enseignement. L'enseignement se faisait essentiellement par oral. Donc, cet enseignement oral s'est perpétué ensuite. C'est passé de génération en génération. Et tout ce qui forme le dépôt de la foi catholique, c'est en partie la Bible, d'accord ? Mais la Bible, premièrement, expliquée par les pères de l'Église, et ensuite, en plus des textes écrits, il y a tout cet enseignement oral de notre Seigneur qui n'a pas été écrit et qui fait bien partie du dépôt de la foi. Alors les protestants, eux, ils séparent la foi des œuvres. Ils disent, seule la foi compte, sans les œuvres. Et ils disent, seule la Sainte Écriture compte, sans la tradition. Alors il faut unir le tout. La foi, certes, avec les œuvres. La Sainte Écriture, certes, mais avec la tradition. Et cela est très important parce que sinon on s'ouvre au libre examen. Quelqu'un a pu dire, chaque protestant est pape une Bible à la main. Parce qu'il peut interpréter la Bible eh bien, selon sa façon. Il n'y a qu'à voir toutes les écoles protestantes pour s'apercevoir de l'immense variété. Il faut qu'il puisse y avoir un organe qui puisse dire dans quel sens on doit interpréter l'Évangile. Et cet organe, il faut que ce soit un organe qui soit infaillible et qui ne puisse pas se tromper. Et alors c'est dans ce sens-là qu'on parle du dépôt de la tradition. Le dépôt révélé renferme ce qui a toujours été cru dans l'Église. Non seulement ce qui est écrit, mais également les textes oraux qui interprètent les écrits. Et aujourd'hui, parce qu'on veut faire fi de la tradition, justement, on veut soi-disant revenir aux sources, on ne se sert plus de la Sainte Écriture. Et c'est comme ça qu'en Amérique du Sud, eh bien, ils prêchent la révolution avec leur évangile. Ils se servent du même livre que nous, mais ils n'interprètent pas du tout dans les mêmes sens. Par opposition à l'évolution actuelle, qui est plutôt une rupture avec le passé.
Et c'est cette connaissance parfaite du catéchisme qui ensuite...
Fois l'enseignement de la Bible et l'enseignement de la tradition, essentiellement c'est le catéchisme. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Le surplus vient du démon. Le langage catholique a toujours été un langage clair. C'est justement pour ça que les catholiques sont persécutés. Si on persécute les catholiques, c'est à cause de leurs convictions. C'est parce qu'ils ont le courage de dire oui c'est oui et non c'est non. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est une société, au contraire, qui se veut être tolérante. Alors par la tolérance, on veut admettre tout et on n'admet pas que quelqu'un ait une conviction et affirme le contraire de ce que l'on pense. Parce qu'il faut être ouvert à tous et en particulier à toutes les erreurs. Eh bien non, comme on l'a dit, seule la vérité est source d'unité. Et c'est pourquoi l'Église a toujours connu la persécution. Donc, et c'est tout le problème du Concile Vatican II. Au Concile Vatican II, ils n'ont pas voulu définir les termes. Ils ont noyé des textes dans l'ambiguïté, donc avec une double interprétation. S'ils n'avaient mis qu'une interprétation fausse, les pères du Concile n'auraient jamais signé. Mais alors, comme il y avait quand même beaucoup de pères du Concile qui étaient encore assez traditionnels, ils ont mis une double interprétation, un texte ambigu avec une double interprétation. Alors les catholiques, ayant le sens catholique, ont interprété les textes dans le sens catholique, et les autres, eh bien, dans leur sens. Mais pour comprendre dans quel sens ils ont voulu faire signer les textes qui ont fait passer ces textes, il faut voir comment ils les ont appliqués. Et si on regarde l'application du Concile, on s'aperçoit qu'ils sont en rupture avec ce qui a toujours été enseigné. C'est la raison pour laquelle il faudrait reprendre les textes et leur donner une interprétation uniquement catholique, qui ne porte pas à ambiguïté. Le démon est toujours à l'aise dans le flou, dans le trouble, alors que le bon Dieu, au contraire, est la vérité. Notre Seigneur a dit « Je suis la vérité ». Et la vérité est limpide par elle-même. En aimant le catéchisme également, en essayant de se former en catéchisme, on doit aussi apprendre à aimer la liturgie. La liturgie nous aide aussi beaucoup dans l'enseignement de notre foi. Parce que on peut dire que le catéchisme, c'est également la liturgie, c'est également un catéchisme vivant qui est mis à la portée de tous. Mais cela, on en parlera ultérieurement. On aura l'occasion d'avoir parlé plus abondamment de la liturgie. Et en particulier, c'est surtout ce sens de l'adoration. On voit le sens de l'adoration, le sens des respects des personnes, l'encensement, le sens également de la hiérarchie. Dans une messe, prenez une messe solennelle par exemple, parce que c'est la référence, eh bien, il n'y a pas deux personnes qui ont exactement la même fonction. Et il y a une hiérarchie. Il y a le prêtre, il y a le diacre, il y a le sous-diacre, après il y a le cérémoniaire, premier acolyte, deuxième acolyte, et même entre les acolytes, il y a une différence. L'Église est une société hiérarchique. Et la liturgie nous aide à avoir ce sens de Dieu. Le bon Dieu l'a voulu ainsi. Il a créé des anges. Tous les anges sont différents, mais il a créé une hiérarchie. Il y a 9 cœurs dans les anges. Regardez les étoiles, c'est pareil. Il n'y en a pas 2 qui ont exactement la même luminosité. La différence ne veut pas forcément dire que l'un est floué parce qu'un autre est différent de lui. Il y a une complémentarité. Le bon Dieu l'a voulu ainsi. Ce qui fait la beauté de l'univers, c'est justement sa variété. Ce serait pas très drôle si on était tous identiques les uns aux autres. C'est l'unité dans la diversité. Donc jusqu'ici, on a vu, parce qu'on a abordé plusieurs thèmes ce soir, la grandeur de l'Église, puisque comme je l'ai dit, elle existe de toute éternité en Dieu. Ensuite, on a vu comment toute la création est ordonnée à l'Église. Tout le mystère de l'incarnation rédemptrice est lié au mystère de l'Église. Tout ce qui existe, nous l'avons dit, existe pour les élus, pour les membres de l'Église. Ensuite, on a vu que l'Église est née du côté percé de notre Seigneur. Elle est la prolongation du mystère de notre Seigneur. Et on la reconnaît à 4 notes. L'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. Ensuite, on a vu qu'elle est divine et humaine. Divine, elle a les paroles de la vie éternelle. Humaine, parce qu'elle est composée d'hommes faillibles. Elle est plus qu'un agrégat d'individus, elle est un être social, d'où l'importance d'être rattaché à une paroisse, d'être uni à un pasteur, et de chercher à être uni avec les autres fidèles. Son enseignement, nous l'avons vu, s'appuie sur la Sainte Écriture, mais pas uniquement, également sur la tradition et sur les dogmes définis au cours des siècles. Et cet enseignement, on le retrouve également dans la liturgie. Alors maintenant, il resterait pour terminer, rassurez-vous, c'est bientôt la fin, il resterait à vous dire un mot de la maternité et de la suzeraineté de l'Église. L'Église est mère. On dit souvent notre mère, la Sainte Église. Alors comment l'Église remplit-elle sa fonction de mère? Il faut regarder comment une femme remplit sa fonction de mère et puis faire l'analogie avec l'Église. Tout d'abord par sa fécondité. L'Église est mère parce qu'elle est féconde. Tous les hommes ont à renaître par elle. Nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut renaître de l'eau du baptême, au moins du baptême de désir, mais ça c'est encore un autre sujet, pour entrer dans l'Église et pour entrer ensuite dans le royaume des cieux. Nul, s'il ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc l'Église est mère tout d'abord par sa fécondité. Ensuite, elle est mère par le souci qu'elle a du salut de ses enfants. On sait que le souci que toute maman a de l'avenir de ses enfants, eh bien, la Sainte Église également a ce même souci du salut des âmes. Nul ne sait prier comme le fait l'Église. Nul ne met en application comme l'Église cette parole de notre Seigneur, il faut prier sans jamais se lasser. Comment est-ce que l'Église prie? Eh bien, par la messe d'abord, mais ensuite également par l'office divin, par le bréviaire que les prêtres et les moines récitent. L'Église prie nuit et jour. Ensuite, l'Église est mère également par ses pleurs. Nulle mère non plus ne pleure comme pleure l'Église. Et pour cela, il faudrait méditer l'office des défunts pour voir quelles supplications l'Église adresse au ciel pour venir en aide aux défunts. Elle assiste les morts pour abréger leur purgatoire. Et si l'Église est tendre comme une mère, elle est également forte. Les âmes valent à ses yeux plus que tous les mondes, d'où sa constance, comme je l'ai dit tout à l'heure, à affirmer le caractère absolu de la loi de Dieu, à dénoncer les scandales et à réclamer la justice. D'où sa persévérance à crier haut et fort le credo, qui est la base de l'unité des fidèles. Et ici, le père Clérissac a une mention sur cette unité de l'Église dont on parlait tout à l'heure. Voici ce qu'il dit. « Dès que l'on tend à reconnaître l'Église comme maître de notre foi, il faut bien reconnaître que non seulement l'union des cœurs, mais aussi et premièrement l'union des intelligences doit contribuer à la catholicité. Donc, ici, le père Clérissac dit, l'union des cœurs, certes, il faut l'avoir, mais cette union des cœurs suppose auparavant une union des intelligences, une union de la foi. Si on n'a pas la même foi, on ne peut pas être uni dans la charité. C'est saint Paul qui le dit lui-même. J'aurais beau avoir une foi à transporter les montagnes, si je n'ai la charité, je ne suis rien. Alors il y a une... À la fois, donc la foi est unie à la charité et la charité à la foi. Les deux vont de pair. Il faut à la fois l'union des cœurs, donc la charité, mais il faut aussi l'union des intelligences, l'union de foi. Les deux vont de pair. Donc la charité seule, comme on le cherche aujourd'hui, ne suffit pas pour former une église. En ce moment-là, c'est la philanthropie, ce n'est plus la véritable charité. Il dit encore, le père Clérissac, il faut bien reconnaître que la charité de bienfaisance, donc cette espèce de philanthropie qu'on remarque à l'heure actuelle, ne peut pas suppléer aux brèches faites à l'unité de la foi. Ce sont ceux qui sont séparés de l'Église qui, eux, ont établi cette brèche. Autrement dit, si catholique veut dire universel, cette universalité de l'Église ne peut en aucune manière exister aux dépens de la foi. L'unité de charité suppose une unité de foi. Saint Paul dira encore, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi catholique, nul ne peut plaire à Dieu. Alors ça posera beaucoup de questions, enfin beaucoup de problèmes, mais en tout cas c'est la vérité. Mais ça mériterait, je veux dire, des développements. Mais on n'a pas le temps puisqu'on fait un survol de toutes ces questions qui concernent l'Église. L'Église est donc mère, nous l'avons dit, par sa fécondité, par le souci du salut de l'âme de ses enfants, par les larmes qu'elle verse sur ceux qui se perdent, par la force avec laquelle elle défend sa foi. On peut dire encore que l'Église est mère par le dévouement qu'elle met au service de ses enfants. Et de quelle manière est-ce qu'elle elle manifeste son dévouement? Eh bien, par la nourriture qu'elle leur donne. La mère a souci de nourrir ses enfants. Eh bien, notre mère, l'Église, nous nourrit de la nourriture du pain des anges, de la nourriture céleste. C'est montré avec quel amour elle exerce cette fonction de mère. Et c'est dans cette maternité de l'Église qu'il faudrait rechercher la racine de son pouvoir coercitif, parce qu'il appartient aussi à la mère de corriger. Une mère qui aime son enfant n'a pas peur de le corriger lorsqu'il fait des bêtises. Et ensuite, également, c'est dans cette maternité qu'on peut voir la source de sa suzeraineté temporelle, qui lui permet également d'intervenir dans la vie des États. L'empereur est dans l'Église et non pas au-dessus de l'Église, dit saint Ambroise. Et ce n'est pas lui faire injure, mais honneur que de lui rappeler. Alors bien sûr, ces rapports entre l'Église et l'État, à l'heure actuelle, j'en parlais hier dans le sermon, c'est sûr qu'on l'a oublié à l'heure actuelle. Il est souvent difficile de circonscrire l'élément spirituel, dit encore le père Clérissac, et c'est l'Église qui doit en juger. De plus, l'Église est liée au temporel dans la mesure où une disposition temporelle peut nuire à sa fin spirituelle. Par exemple, le travail du dimanche, en soi c'est temporel, c'est un travail. Eh bien, le travail du dimanche, qui est institutionnalisé, nuit à un commandement de Dieu et à un commandement de l'Église. Donc, en ce moment-là, l'Église a son mot à dire dans la cité. Dans une cité catholique, l'Église devrait interdire le travail du dimanche. Sauf, bien sûr, pour ce qui est nécessaire, les fonds, les travaux qui sont indispensables. Et c'est pourquoi l'Église a eu jusqu'au pouvoir de délier les sujets d'un prince de leur serment de fidélité. Elle a en effet le droit de préserver ses enfants du scandale, d'où qu'ils viennent. Mais alors, ce qu'il y a de pire, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, non seulement les chefs de l'Église, les responsables de l'Église, n'osent plus rappeler aux chefs d'État leurs devoirs, mais même vis-à-vis de leurs subordonnés, vis-à-vis des fauteurs d'hérésie. Certains d'entre vous savent que La semaine dernière, le père Delorme a été interviewé sur Télévision Lyon Métropole. Et au cours de cette émission, on m'a demandé de lui poser une question. Alors moi, je dis, bon, pourquoi pas, il faut toujours voir. Enfin, laissez-moi réfléchir quand même un moment pour savoir qu'est-ce que je pourrais lui raconter. Alors au début, je me suis dit, je vais peut-être lui poser comme question, est-ce que vous croyez à l'enfer ou péché originel? On pourrait prendre les dogmes un par un d'ailleurs. Mais alors je me suis dit, c'est peut-être pas la peine de le faire proférer une hérésie devant des milliers de téléspectateurs. Je vais plutôt lui poser une question d'un autre style. Donc je lui ai demandé, si, comme il était très ouvert à tous, si il voulait bien souscrire positivement à votre demande. J'ai parlé en votre nom. Donc on demande les fidèles qui réclament une église pour ceux qui sont fidèles à la fraternité Saint-Pilis. Et alors à ce moment-là, il a dit, il y a deux dimensions dans sa question. Pour le dialogue, ça je suis d'accord, je veux bien parler avec lui, d'ailleurs il m'a l'air sympathique, il est jeune, bon, très bien. Mais par contre, pour la deuxième, à savoir si il aura une église, eh bien non. Ils se sont mis en dehors de l'église, ils n'ont qu'à assumer leurs responsabilités. Alors ça montre que l'ouverture a un sens unique. Alors ce qui est amusant, c'est que, en ce moment-là, le speaker a dit, vous parliez de l'église de Mgr Lefebvre selon, comment il disait ça, l'église catholique selon Mgr Lefebvre. Mais en fait, quand vous dites l'église catholique selon Mgr Lefebvre, c'est ce que l'église a enseigné depuis 20 siècles. Et en ce moment-là, lui, il a répondu, mais non, l'église a évolué. L'église évolue, que je sache, le Christ ne parlait pas latin. Alors bien sûr, comme réponse... Alors il n'a pas compris qu'il existe une évolution homogène que l'on reconnaît, et dont je viens de parler, qui n'a rien à voir avec l'évolution hétérogène qui existe depuis le Concile. Parce que lui-même a dit, j'ai ma place dans l'Église à l'heure actuelle, grâce au Concile Vatican II, qui a justement, par son ouverture au monde, nous a donné une place. Alors je vais simplement vous lire un passage du livre qu'il a écrit en 1985, « Par amour et par colère ». Alors par respect pour vous, je ne lirai pas tout. Mais déjà, ça vous montrera un petit peu qui est cet abbé Delorme qui vient d'être nommé par l'archevêque de Courtrai comme prêtre à Lyon, à la paroisse de Saint-André et de Saint-Michel. La malédiction et la condamnation qui pèsent sur les homophiles m'apparaissent en effet comme une injustice flagrante. Je ne comprends pas que des esprits chrétiens s'en rendent encore coupables. Et je souffre que si peu de responsables d'Église se soucient de corriger cette erreur. Il est évident que le judéo-christianisme ne porte pas nécessairement en lui la condamnation des relations amoureuses entre hommes ou entre femmes. Depuis quelques années, je suis en relation avec deux groupes de chrétiens homosexuels. D'une part, le Centre du Christ Libérateur, créé il y a maintenant 10 ans par un baptiste, le pasteur Doucet à Paris, lieu de rencontre pour des homosexuels souvent âgés, solitaires et perdus, les pauvres, souffrant des discriminations. Lieu de rencontre aussi avec une parole tirée de la Bible qui affirme que Dieu aime, que Dieu libère. D'autre part, le groupe David et Jonathan, vieux lui aussi de quelques 10 années, il rassemble des chrétiens qui cherchent à partager leur foi sans taire leurs conditions homosexuelles. Des chrétiens qui vivent de véritables amours, j'imagine, et d'autres situations où ce dernier est absent. Il doit y avoir place dans nos églises pour les homosexuels, pour une pastorale collective des homosexuels chrétiens. C'est à quoi voudrait parvenir le mouvement David et Jonathan, et je souhaite être de ceux qui l'y aideront. Car les homosexuels chrétiens ne se feront admettre au sein de l'Église que s'ils ont le courage de dire « Nous sommes homosexuels, mais nous sommes aussi chrétiens ». Alors vous voyez, il est nommé donc par le cardinal de Courtrai, donc avec un poste à l'église de Saint-André. Et il est fier de dire qu'il appartient à l'église catholique, apostolique et romaine. Enfin, moi, je ne me reconnais pas dans son église, moi. Alors, c'est vraiment triste de voir, en cette crise de l'église, où on en est arrivé. Alors, il se veut ouvert à tous, sauf, bien sûr, à ce qu'il représente le passé. Alors je pense que toute cette étude, vous voyez, du mystère de l'Église a pour but de nous faire connaître l'Église et aimer. Et encore, je vous passe après les passages, parce qu'après les passages où il raconte sa vie, alors je n'ai pas osé le lire en public. Si l'Église nous aime comme la plus tendre des mères, nous devons rendre également amour pour amour. Nous devons accepter et aimer notre dépendance foncière totale vis-à-vis de l'Église. Alors ici, une réflexion du père Pierre Isaac que je trouve, une image que je trouve assez belle et qui est réelle en même temps. L'Église nous prend et nous porte sans cesse dans notre misère et notre nudité morale et physique, comme seule peut faire une mère. Elle dépouille nos langes au baptême pour nous imprimer ses onctions. Ceux qui ont assisté à un baptême traditionnel savent que pour le baptême, on est obligé d'ouvrir sur le devant et derrière. Donc l'Église dépouille nos langes au baptême pour nous imprimer ses onctions. Elle soulève nos linceuls au lit de mort pour nous oindre encore, donc l'extrême onction. Dépendance donc de tout notre être, intérieur et visible, privé et public, sans réserve aucune. Et notre amour pour l'Église, et je terminerai par là, est le signe que nous gardons en nous le don de la charité dont je parlais tout à l'heure. Nous donc aussi, nous recevons l'Esprit Saint, c'est saint Augustin qui parle. Si nous aimons l'Église, si nous sommes joints par la charité, si le nom et la foi catholique font notre joie, croyons-le, frère, autant quelqu'un aime l'Église, autant il a en lui le Saint-Esprit. Voilà. Y aurait-il quelques questions à poser? Parce que c'était un sujet assez vaste.